Mon mari a été approché pour être informé de ce projet d'achat de ces terrains et il a tout de suite dit non. Moi, je ne vendrai pas, on ne vendra pas notre ferme pour agrandir ce périmètre.
Et puis, ensuite, dans les années 60, est revenu un autre projet de centre de cheval, toujours un projet de place d'armes qui là a vraiment crispé la population. Vous étiez encore une fois vraiment à quelques centaines de mètres de ça. Quand ce nouveau projet est arrivé, est venu sur la table, comment vous avez réagi?
Oui, le nouveau projet, il a fait réagir. Il y a des gens qui ont peut-être dit, ouais, c'est pas plus mal qu'une place d'armes, qu'est-ce qu'on fait? Mais toujours, on ne voulait pas céder du terrain, on ne voulait pas vendre son patrimoine pour une institution quelconque.
Ça, c'était vraiment le moteur premier, je dirais, dans cette opposition à la place d'armes. C'était l'attachement à la terre, davantage que les revendications autonomistes.
Mais l'attachement à la terre, il allait aussi avec les projets autonomistes, puisqu'on voulait créer un canton, on ne voulait quand même pas déjà se séparer d'une partie du territoire en ce temps-là. C'était tellement logique de garder ses terrains, de garder sa terre, et puis d'en faire un canton éventuellement en ce temps-là. Mais voilà, tout était tenu. C'était deux projets qui se tenaient ensemble.
C'est aussi peut-être une des choses que les autorités bernoises n'ont pas comprises à l'époque, cet attachement vraiment viscéral des francs-montagnards, ici, alors en l'occurrence, les communes de l'Ajoux, les Genevey-Montfaucon, à leur terre. On ne brade pas le terrain.
Oui, c'est vrai que les habitants de la Courtine, là, ils tenaient à leur terrain, à leur patrimoine, alors qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils pourraient vendre, faire des affaires avec leur terrain, leur patrimoine. Alors c'était deux choses inadmissibles. Alors les communes se sont vraiment mises ensemble pour protéger leur terre, leur patrimoine, leur agriculture, leur famille qui était sur ces domaines. Mais voilà, quand il y a un vendeur et puis un acheteur, c'est pas toujours facile de se mettre entre deux.
Mais par contre, alors, l'ERJ, le Rassemblement Jurassien, lui, il a réussi à capter ce mécontentement, à capter aussi quelque part cet attachement à la terre pour faire venir des militants contre la place d'armes vers des revendications autonomistes, même si tout était lié. L'ERJ a quand même eu aussi un rôle important à cette époque.
Il est clair que l'ERJ, il était aussi de l'avis des propriétaires du patrimoine ici, c'est qu'on ne peut pas se séparer de la terre si on veut préparer un canton. Et là, on a toujours aussi senti le soutien du ERJ dans la lutte contre cette dispersion des terres du pays. Alors, on avait le soutien, un soutien, je veux dire, discret, mais efficace.
Avec aussi des militants contre la place d'armes qui étaient directement impliqués aussi dans le groupe Bélier. Ça existait, hein. Il y avait des liens qui étaient parfois assez forts.
C'est sûr que l'ERJ, le groupe Bélier, les militants, tout le monde travaillait pour la protection de ces terrains, contre la place d'armes, contre de nouveaux projets. C'est sûr qu'il y avait une force entre les trois qui était importante et c'est ça qui a fait évoluer les choses du bon côté.
Ça a mené à ce mécontentement contre ce projet de la place d'armes, à l'affaire Déranger aussi, où un conseiller fédéral, Paul Chaudet, a été empêché de parler. On a vraiment l'impression que c'est ici où on se trouve, dans votre ferme à l'Ajoux et dans les environs, que tout s'est cristallisé autour de la question jurassienne.
Beaucoup de choses se sont cristallisées ici parce que les militants, il y avait beaucoup de nos jeunes, de nos gens qui travaillaient à fond contre ce projet. Alors tout se tenait, quoi. Laisser venir M. Chaudet à la Caquerelle, c'était pas tellement la visite attendue. Et je pense aussi ça que ça fait bouger les choses. Ça a fait bouger et la Confédération et tout le monde.
Vous-même, vous ne faisiez pas forcément partie des militants contre la place d'armes, mais vous étiez sympathisante aussi avec votre mari, et sympathisant les deux fidèles et engagés.
Oui, on n'était pas des militants toujours en première ligne dans les manifestations, mais on a participé à toutes les manifestations contre la place d'armes. Et puis, ben, quand M. Chaudet est venu à la Coquerelle, ben, on a écouté la radio, puis on était de ce côté ici. Hein? Mais c'est vrai que militant, si on était, on militait, mais de façon peut-être moins virulente. On était déjà aussi contre la violence, ça aussi, mais aussi si on était toujours contre cette implantation, contre ce gaspillage de nos terres.
La violence, vous l'évoquez, c'est celle du FLJ, avec deux attentats commis pas très loin d'ici, hein, deux fermes qui seront brûlées par les membres du Front de Libération jurassien. On est encore une fois à quelques centaines de mètres, vous avez même une anecdote à ce propos.
Un soir, donc c'était au mois de juillet, je devais encore soigner un de mes enfants, et puis mon mari me dit « je t'attends devant la maison, je m'assieds devant la maison et puis je viendrai dedans après ». Et qu'est-ce qu'il voit depuis donc chez nous ? Un voyageur dans les finages, dans le foin, qui traverse avec une lampe de poche. Et ça l'a intrigué parce que, ouais, à cette heure, à 9h30, 10h le soir, un voyageur dans les champs, il s'est dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et il est venu se coucher, on n'en a pas... Il m'a dit « j'ai vu quelqu'un là, mais on n'a pas discuté autrement de ça ». Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il a vu que la ferme sous la côte avait brûlé, on a vu les cheminées. Puis tout de suite, ben, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que cette personne faisait là au milieu? Alors ça a tout de suite intrigué. Et comme j'avais une belle-sœur qui habitait la ferme d'Icombe, qui était sur le territoire, qui était gardée par les militaires, qui vivait dans une angoisse, dans une peur tous les jours, avec trois enfants à la maison, enfin, il lui téléphone. Puis il lui dit, mais c'est toi qui descendais avec une lampe de poche, là, hier soir, dans les champs. Puis il lui dit, non, c'était pas moi. Pourquoi? Puis il lui dit, mais écoute, il y a quelqu'un qui a traversé. Enfin, il lui raconte la chose. Et elle lui dit, mais s'il te plaît, on a trop peur, on ne sait pas ce qui se passe avec ces incendies. Ne dis rien, s'il te plaît, n'appelle pas, n'avertis pas la police que tu as vu quelqu'un à cette heure-là.
Et effectivement, votre mari n'a pas appelé, mais alors cet homme qu'il a aperçu dans les champs, qui traversait les champs dans la nuit, c'était probablement un des membres du FLJ.
Oui, c'était probablement, d'après l'enquête, d'après ce qui s'est passé après, c'était probablement un de ces trois FLJ là, et qui traversait le finage pour aller rejoindre la route des camps, pour aller retrouver leurs copains. Alors c'était sûrement l'incendiaire de sous la côte.
Alors vous, ces attentats du FLJ qui étaient à proximité de ces fermes qui ont été incendiées, comment vous avez perçu ces événements ?
Comme je vous l'ai déjà dit, nous on était contre la violence et on trouvait aussi que détruire aussi les bâtiments, c'est aussi une partie du patrimoine. Elle fait partie des terres pour exploiter tout. Et aussi les familles là, qui vivaient ces incendies, les communes, enfin tout le monde était concerné. On était contre cette violence, on n'aimait pas ça. Et puis aussi, ce qui nous inquiétait, c'est que quand on a su que c'était le FLJ qui avait agi pour faire avancer la question jurassienne puis lutter contre la place d'armes, on ne savait pas au début si c'était un individu dangereux ou qui c'était qui agissait pour faire tous ces incendies.
Vous avez parlé aussi de la peur tout à l'heure. Il faut peut-être aussi rappeler que la police bernoise avait installé un quartier général pas très loin d'ici, au Bois Rebeté, pour essayer d'attraper ses membres du FLJ. Le climat, on imagine, il était quand même très, très, très spécial, très particulier.
Oui, alors cette organisation militaire qui a eu lieu là au Bois Rebeté, c'était vraiment, on se sentait comme dans un pays où il n'y a plus de démocratie, où il n'y a plus d'ordre. Les habitants des communes ici supportaient très mal ce projet. Bien sûr qu'ils sont venus là pour, comme vous le dites, essayer d'attraper. Mais qui ? On ne savait pas qui. Alors, toute cette invasion militaire, là, c'était vraiment contre la nature des Francs-Montagnards et puis aussi de nos communes, de nos gens. Et il y avait aussi la police qui était toujours dans les rues à l'âge où on arrêtait n'importe qui aussitôt que tout le monde était presque surveillé. Alors, ça devenait une situation tendue, difficile à supporter à la longue.
Vous avez vécu ça, je mets des guillemets, un peu comme une forme d'occupation ?
À un moment donné, c'était presque comme une occupation, parce qu'on ne tenait pas compte des avis de la population. La population était contre. Alors pourquoi est-ce qu'on venait s'imposer ? par le rachat de quelques propriétés. C'était inconscient, c'était les militaires qui commandaient, c'était pas la population. Mais bon, heureusement que ça a pu changer.
Et puis cette présence policière, vous l'avez vécue directement avec des gens qui étaient arrêtés, des surveillances. C'est assez lourd quand même.
Oui, on connaissait tout le monde. Et puis aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui avait été arrêté parce qu'il avait été une telle séance ou bien parce qu'on a rencontré des agriculteurs qui allaient à la ferme du domaine de Bellay avec leurs chevaux, qui étaient arrêtés en chemin parce que, voilà, et puis on les conduisait à Moutier pour les interroger, ça devenait insensé. Et puis, toujours une séance ici, qui c'est qu'il y avait ? Cette voiture, elle a disparu à telle heure, elle est revenue. C'était une surveillance continue que, vraiment, les militants, c'était dur pour eux aussi de réagir et de ne pas céder à la violence.
J'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu la situation géographique de l'endroit où vous habitez. Il faut rappeler qu'à l'époque, la Joule et Genevée faisaient partie du district de Moutier, pas des franches montagnes. Est-ce que ça signifie que vous, en tant que militante de la FDJ, avant le vote du 23 juin par exemple, vous avez mené des opérations de porte-à-porte pour essayer de convaincre des gens, ce qu'il fallait, je ne vais pas dire peut-être moins faire, mais c'était peut-être plus évident dans le district de Lémont, peut-être à ce moment-là, qui était très autonomiste avec peu l'antiséparatisme. Comment vous avez vécu ces moments de préparation au vote du 23 juin ?
Mais même si la Joule et Genevée étaient encore dans le district de Moutier, le problème de la place d'armes, il a été partagé par toutes les franches montagnes. Il faut reconnaître que toutes les franches montagnes se sont mises avec les communes de la Joule et Genevée, Montfaucon, pour lutter. On a des vaillants militants des Franches-Montagnes, qu'on a beaucoup de reconnaissance, qui nous ont aidés. Il n'y avait pas de différence. On ne voulait pas de place d'armes, on voulait garder notre terre, nos terrains. Et là, il n'y avait plus de projet politique et puis de district ou pas. C'était on garde ce terrain et on se bat pour ça.
Mais vous êtes quand même géographiquement aussi à la frontière de ce qui est devenu le Jura bernois, avec aussi des gens que vous connaissiez qui étaient forcément antiséparatistes et que vous essayiez peut-être de convaincre. Comment ça se passait ?
Mais là, c'est vrai qu'on habite la frontière, là, Joue Tramelan, les Genevées, enfin là. Mais on a eu beaucoup de discussions avec des gens qui étaient bernois. Bon, certains voulaient encore discuter, mais vous voyez, on est bernois, et puis, mais il faut aussi les comprendre, ils ne voulaient pas perdre aussi un coin de terre. Autant de nous, on voulait le gagner, le garder, autant les autres voulaient le garder. C'était réciproque. Et puis bon, bien sûr, il y a des fois des choses qui se mêlaient, tout s'en mêlait des fois. Et les discussions étaient difficiles, mais toujours, on a toujours prôné la discussion, et puis surtout éviter la violence, et c'est ce qui a été fait. Tout au long, bon, il y a eu des coups sympathiques, je dirais, mais la violence, on l'a évitée, ça c'était important.
Cette région de la Courtine, un petit peu particulière, avec aussi Bellay, qui n'est pas très loin, qui est resté bernois, vous, ça c'est quelque chose que vous avez mal vécu ?
Oui, j'ai mal vécu la perte du district de Moutier, vraiment, et je n'ai pas encore parlé de cette histoire qu'on a perdu Bellay. La Joule et Genevée faisaient partie de Bellay, de la paroisse. Bellay, c'était le centre de la Courtine au niveau paroisse, au niveau. Et tout ce qui venait des Genevées et la Joule, on travaillait tous ensemble. Et je trouve là, alors maintenant, je regrette encore toujours que le district de Moutier, maintenant, on a Moutier, c'est une partie, mais Bellay aurait dû aussi venir avec nous faire l'histoire du Jura.
Pour vous, c'est encore aujourd'hui un crève-cœur, si on parle de Bellay, de ce site qui fait partie de l'histoire jurassienne.
Oui, pour moi, Bellay reste parce qu'on était tellement, on était proches, Bellay. Je vous dis, ces contacts de l'histoire, je trouve qu'on n'aurait pas dû être séparés de Bellay. C'est vrai que je le regretterai toujours, je pense.
Tout ça, ça vous a amené à un engagement politique par la suite, aussi au sein des milieux agricoles. Vous n'aviez pas été élue à la constituante jurassienne, mais ensuite vous avez été élue suppléante au Parlement. C'est dire aussi qu'à l'époque, même quand on était connue, engagée, mais quand on était une femme, c'était compliqué.
Oui, c'était compliqué. C'est vrai qu'on a commencé de lutter contre la place d'armes. On n'avait pas le droit de vote. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Ben, elles apportaient un soutien constant à leur mari, à leur fils qui allait se battre contre la place d'armes. Quand il y avait des manifestations, ben, toutes les femmes donnaient tout ce qu'elles pouvaient pour aider à la réussite de ces manifestations et recevoir. On a eu des milliers de personnes par manifestation. Puis après, on a eu le droit de vote et puis on a été un petit peu engagés dans les organisations. Alors, d'une chose à l'autre, ça motive et puis on prend aussi goût à défendre son pays, à défendre un peu son histoire. Alors, c'est pour ça que je me suis engagée aussi, principalement dans l'agriculture, parce que j'étais paysanne et qu'on avait aussi des choses à défendre, avec le reste de la communauté, j'entends. Alors, oui, c'est pour ça que je me suis engagée. Puis en étant paysanne, en étant membre, eh bien, on fait partie de la FDJ parce qu'on est jurassienne et puis qu'on tient aux mêmes valeurs et aux mêmes luttes.
Toujours cet attachement à la terre.
Ah ben oui, on est né à la terre et puis on y tient, on est attaché. Et puis voilà, quoi. On essaie de faire le mieux possible pour elle.